Il y a eu la lamentable conférence des réfugiés déviants en 1938, où on a dénoncé déjà l'imminence du massacre et qui n'a abouti qu'à des pieux discours. Et on arrive alors en conclusion devant la phase finale, celle de l'extermination, que vous connaissez. Alors se pose la question de savoir, alors qu'il n'y avait plus d'illusion à se faire à la fin, pourquoi n'y a-t-il pas eu alors de révolte? Je dirais pour les raisons déjà indiquées, c'est pour les raisons de l'assimilation, de la double conscience, de la soumission, mais aussi pour une autre raison. Si nous prenons, par exemple, la résistance juive en France, il y a eu résistance juive en France, mais cette résistance n'a été possible que parce qu'il y a eu un milieu humain, une société environnante qui était portée elle-même sur la résistance, dans une société résistante. Alors que les juifs allemands étaient isolés. Certes, là, je suis sûr, quand il y avait la nuit de cristal, précisément, mon frère, mon père couchaient chez des bons Allemands. Il y avait un ami de mon frère qui était membre clandestin du KPD, du Parti communiste allemand. Parce que les communistes allemands avaient utilisé le club de football en organisation de camouflage. C'est d'ailleurs, je l'ai revu, ce communiste allemand, après la guerre à Berlin-Est, il était devenu ministre des chemins de fer. Et ça c'est vrai d'ailleurs, il chantonnait, j'étais assez stupéfait, je l'entendais chantonner quelque chose qui ressemblait à de l'hébreu. Je dis, mais d'où tu sors ça? Elle me dit, mais ça me rappelle ma jeunesse, quand on faisait des sorties communes avec la Chomé à Tseïr. C'était vraiment, faisons dire, des cas d'espèce. Mais il faut quand même, il y a eu un autre isolement juif. Il y a eu l'isolement juif de Varsovie, que je rappelais hier, où les juifs étaient massacrés et se faisaient tuer jusqu'au dernier en luttant maison par maison. Il y a quelques mètres de là, dans le quartier arien, le manège tournait, on chantait, on dansait. Mais les Juifs se battaient néanmoins à mort. Pourquoi les Allemands ne se sont-ils pas battus à mort? Il y a des raisons matérielles, mais je dirais quand même, il y a aussi des raisons existentielles, dans leur comportement, dans la manière d'être. L'idée des résistances était folle. Je vais dire même, là, je terminerai mon compas deux anecdotes. De moi, quand je me suis enfui d'Allemagne, c'était presque une rupture avec ma famille, je leur ai faussé compagnie. Je suis parti. Et bien, dans cette rupture, j'ai emporté un journal personne intime, j'avais 13 ans, je disais dans mon journal qu'il fallait pendre Hitler. Mais en même temps, j'avais dans ma poche uniquement 10 marques. Parce qu'il y avait une législation allemande qui interdisait d'exporter plus que 10 marques. Alors je franchissais la frontière illégalement avec un journal qui m'aurait pu valoir les pires sévices, mais il fallait respecter 10 marques seulement, c'était comme ça. En France, j'ai connu une famille juive allemande, d'anciens industriels. Ils étaient cachés à la campagne avec des fausses cartes d'identité. Mais il y avait une loi qui obligeait tous les juifs de se pointer tous les samedis au commissariat de police. Alors qu'est-ce que faisaient ces braves gens? Tous les samedis, ils laissaient leur fausse carte d'identité chez le paysan, ils prenaient l'autocar, ils reprenaient leur carte tamponnée juive, ils allaient au commissariat de police, tamponner, parce que c'était la loi. La loi, c'est la loi, il faut observer la loi. quiconque viole la loi, ben, il est puni. Non seulement il est puni, il cesse d'être un homme, il se place en dehors de la condition humaine. Et finalement, l'horrible paradoxe, c'est que les Juifs allemands, qui étaient les parias de la société, qui étaient voués à l'extermination, ne croyaient pouvoir survivre que dans le respect d'une loi qui les condamnait à mort.
Bien, je n'ai pas comme Kurt Niedermayer le privilège d'être d'une famille totalement allemande, mais quand même d'une famille en partie allemande. Ce qui m'a peut-être placé à un autre poste d'observation et qui complétera. Mon père était allemand, ma mère était suisse. Et la famille suisse a trouvé qu'il s'agissait d'une mésalliance quand ils se sont mariés. J'ai donc été élevée dans un courant, si je puis dire, cosmopolite. Ma mère parlait trois langues, comme souvent dans les familles suisses. N'aimait pas l'allemand et avait créé à Nuremberg, puisque c'est là que je suis née, un club de français. Voilà encore une autre sorte de juif que Kurt a oublié dans son énumération. Je crois qu'effectivement, des judaïsmes qui ont existé à cette époque, c'était le plus compliqué. Je crois qu'on ne peut pas comparer à la Pologne, où le judaïsme formait vraiment un ghetto, à la France, où notre ami Pierre Vidal-Naquet a montré que l'assimilation avait atteint un degré beaucoup plus fort, mais pas seulement l'assimilation religieuse, mais l'assimilation civique, qui est quand même plus important. Là où le bât blesse en Allemagne, c'est qu'il s'agit d'un judaïsme culturellement en grande partie assimilé, mais pas politiquement assimilé. C'est là, je crois, l'explication majeure du drame qui va arriver aux juifs allemands. Je voudrais, au risque de vous ennuyer un petit peu, vous donner quelques chiffres. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur le judaïsme allemand, mais on donne rarement des chiffres. D'abord, détruire une légende de la toute-puissance juive dans l'Allemagne en 1933. Si on compare le pourcentage de juifs en Allemagne en 1871 à celui de 1933, on s'aperçoit d'une régression permanente des juifs en pourcentage en Allemagne. Je vous donne quelques chiffres. 1871, 383 000 juifs représentent 1,05 de la population. 1900, 497 000 juifs représentent 0,98%, on descend en dessous de la barre de 1%. 1910, 0,92%. 1925, 0,90%. 1933, 0,76%. Donc, entre 1871 et 1933, nous descendons de 1,05% de la population à 0,76%, ces chiffres étant pris avant l'émigration. J'ai dû travailler là-dessus parce que l'Église protestante sur laquelle j'ai fait ma thèse prétendait que les juifs envahissaient toutes les professions libérales et toute l'économie allemande, sous des slogans « créer des banques protestantes, des banques chrétiennes pour ne plus être dépendant des banques juives ». Et on demandait dès 1890 d'ailleurs le numerus clausus en Allemagne, c'est-à-dire un faible pourcentage de juifs proportionnel à leur pourcentage dans la population allemande. Il n'y a que dans les professions comme culturelles, comme le journalisme, le théâtre, la musique, la littérature, les sciences, dont Einstein, où les juifs représentaient la médecine, oui, enfin toutes les professions libérales, où les juifs représentaient 4,6% de la population, alors que, je vous ai donné les chiffres, ils sont en moyenne 0,9%. Mais ailleurs, l'importance des juifs, et j'y reviendrai, y compris dans l'économie, a été très exagérée. Je voudrais, à ce point de vue-là, vous donner aussi des chiffres de la sociologie des juifs en Allemagne. Profession indépendante, on inclut là-dedans, c'est un peu mal fait, aussi bien les professions libérales que les commerces, 46%. Kurt a eu raison de dire que ce judaïsme n'était pas très prolétarisé. Fonctionnaires et militaires, là nous arrivons dans la barre correcte, 1%. Vous voyez ? Donc on a beaucoup exagéré l'importance des juifs dans la fonction publique allemande, par exemple. Employés, 33,5%, ce qui est quand même important, classe moyenne. Ouvriers, 8,7%. Employés de maison, 1,2%. Ces chiffres sont des pourcentages par rapport à la population juive, pas par rapport à la population totale. J'en viens à l'émigration. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les chiffres de Kurt. Peut-être sommes-nous d'accord si on inclut les juifs convertis. En 1933, on dénombre, je donne les statistiques officielles du Reich, puisque jusqu'en 1933, elles sont données par confession, donc c'est très facile. 1933, 503 000 juifs, donc en Allemagne, dont 19,8% de juifs étrangers, presque 20%. Le fameux Polak, surtout. Mais il y en avait d'autres, voyez ma mère. Elle n'était pas polonaise, il y en avait quand même quelques-uns.
C'était la crème.
La crème.
La crème suisse.
Très bon. À cela, il faut ajouter, en 1933, 340 000 chrétiens d'origine juive. Parce qu'on n'en parle pas souvent de cela. Mais en vertu des lois raciales, ils ont été immédiatement inclus dans les nombres du judaïsme. Alors, de 503 000, nous arrivons déjà à 843 000. Et il est intéressant de voir que sur les 340 000, nous sommes déjà en fait à la troisième génération de convertis, puisqu'il n'y a que 50 000 convertis, dont on a encore la trace de conversion, 210 000 demi-juifs et 80 000 quarts de juifs, suivant les lois raciales, quart de juifs, c'est un grand-père ou une grand-mère d'origine juive. Donc, ça fait déjà 843 000. Chiffre de l'émigration, 1933, après le boycott des magasins juifs, 37 000 s'en vont. On inclut là-dedans aussi les gens qui ont été exclus de la fonction publique, de la presse, de la radio, par les premières lois d'exclusion. De 1934 à 1938, 20 à 25 000 départs par an. C'est tout. Et j'ai montré dans la nuit de cristal que, par exemple, l'émigration vers les États-Unis, à l'époque, est minime. 27 000 en tout pour les USA entre 1933 et 1937, alors que ce qu'on appelle le quota d'immigration de juifs allemands vers les États-Unis aurait permis 130 000 par an.
Ce qu'ils auraient.
Et je montre dans mon livre que lorsqu'on a voulu, certains députés d'origine juive américains ont voulu utiliser ces quotas non utilisés à partir de 1938, les États-Unis ont refusé. Ça aurait permis de sauver tout le judaïsme allemand. Il était trop tard. L'opinion américaine n'a pas suivi, comme le montrent les sondages Gallup de l'époque. En tous les cas, ce n'est qu'en 1938, et j'expliquerai pourquoi, que l'émigration fait un bond, 40 000, c'est pas encore énorme, en 1938 et je vous montrerai tout ce qu'il a fallu pour les convaincre de s'en aller. En 1939, après la nuit de cristal, 78 000 s'en vont, ce qui nous mène à un total de 250 000. Donc, sur 843 000, certains ont pu rester jusqu'au bout en Allemagne, nous le verrons. Et là, j'y reviendrai, je n'ai rien dit des Juifs autrichiens, qui en 1938, ils sont quand même 190 000. Ah non, bon.
Taisez-vous là, c'est haut que ça se passe. Un petit morceau de piano, ça vous dirait ?
Alors, 190 000 juifs en Autriche, et j'y reviendrai parce que c'est là qu'on voit le mieux le comportement des juifs de culture allemande, dans lesquels j'inclus les juifs autrichiens. Je pourrais aller plus vite pour l'énumération des associations. Kurt en a déjà parlé. Je voudrais quand même dire, et c'est là que Kurt a raison, en tant que germaniste, je suis obligée aussi de souligner les aspects positifs de la culture allemande. Un des fruits de l'émancipation que j'ai bien précisé culturelle des juifs allemands, surtout avec la naissance de la République de Weimar, ce n'est d'ailleurs pas un hasard, j'ouvre une parenthèse, si cette émancipation touche les juifs et les femmes. Et si dans ma vie, moi j'ai toujours lutté pour les juifs et les femmes. Les régimes dits libéraux, dits humanistes, accordent des droits que les régimes dits autoritaires n'accordent pas. Et ce qui a permis au judaïsme allemand, y compris aux femmes juives allemandes comme aux autres, de s'épanouir, c'est le foisonnement d'associations. On peut certes mettre en vedette les deux que Kurt a cités, surtout le Zentralverein Deutscher Staatsbürger Jüdischen Glaubens, une association qui groupait 70 000 adhérents, c'est-à-dire à peu près 80% des chefs de famille, si je puis dire, juifs allemands. C'est quand même énorme. L'un des directeurs de ce Zentralverein, le docteur Wiener, a eu le courage de s'enfuir avec des valises de documents en plein nazisme et a créé à Londres ce que je considère comme la meilleure bibliothèque du judaïsme allemand, la Wiener Library, qui porte son nom.
On a supprimé, faute d'argent.
Elle existe encore un peu. Elle doit être transférée en Israël. Moi, j'espère toujours qu'elle va rester parce que c'est quand même bien près de nous. J'y ai puisé une documentation énorme, notamment sur l'histoire des communautés juives d'Allemagne. Et aussi, il y a un fonds unique, à mon avis, au monde, de témoignages de ceux qui ont vécu cette période. La Wiener Library a l'intelligence de faire témoigner. J'ai par exemple cité dans la nuit de cristal le témoignage de la présidente des femmes juives de Bochum qui a organisé l'aide au moment de la déportation des juifs polonais, premier grand geste de solidarité de juifs allemands pour des polacs, en octobre 1939, parce que c'était le banc d'essai de la déportation. Seuls les juifs polonais étaient visés à l'époque. Eh bien, la Wiener Library a recueilli son témoignage que je trouve absolument passionnant, parce qu'on retrouve à la fois l'ordre allemand dans l'organisation des femmes juives, la discipline allemande, le sang-froid, mais aussi cette conscience culturelle des communautés juives allemandes. Alors, ce foisonnement d'associations a donné aussi, bien entendu, donc ces associations très allemandes, la plupart avaient pour mot d'ordre la Torah et Goethe. C'est tout un programme.
Kant.
Surtout Thora und Goethe. Je me souviens que même à Francfort, la communauté archi-orthodoxe du rabbin Breuer, de la Gouda, avait ce mot d'ordre. Il y ajoutait Schiller, lui. Ça faisait un peu plus lyrique. Il y avait donc ces organisations, il y avait l'association des religieux libéraux, un peu comme aux États-Unis aujourd'hui, du judaïsme orthodoxe qui représentait à peu près 10%, du judaïsme populaire qui groupait notamment, alors là, des yiddishisants. Il y avait les organisations sionistes, je reviendrai, des organisations de jeunes, dont le célèbre Maccabi, association sportive très importante, et des organisations de femmes qui ont joué un rôle non négligeable dans la solidarité de ces années-là. Toutes ces associations innombrables, il y en avait dans chaque ville qui avait une communauté juive pratiquement, ont été réunies dès 1933 en Reichsvertretung, représentation du Reich, der Juden. Ce que je comparerais, et ça je vous demande de bien y réfléchir, c'est un des problèmes que je vous pose ce soir, à l'Union Générale des Israélites de France, qui fut créée sous le même principe d'une fédération, interlocuteur valable des autorités en France en 1942. Première question donc que je soumets à votre réflexion, était-il juste de faciliter la tâche des autorités en constituant une fédération d'associations juives interlocuteurs dits valables? J'en donnerai quelques exemples. Pour ma part, ma religion est faite. Si jamais ça devait se reproduire, moi je dis il ne faut pas retomber dans ce panneau-là. Mais enfin, on pourra en discuter si vous voulez bien. Le président de cette fédération était un homme prestigieux, le grand rabbin Léo Beck, B-A-E-C-K, qui est l'auteur de l'essence du judaïsme, qui est d'ailleurs le répondant juif de l'essence du christianisme, que j'ai longuement étudié, du grand théologien protestant Harnack. C'est vous dire à quel point les juifs étaient assimilés culturellement et faisaient des livres parallèles aux chrétiens, et ils étaient aussi lus, il faut bien le dire. À la tête donc de cette fédération, qui va devenir l'interlocuteur des autorités nazies, des notables. L'un des présidents du Zentralverein, dont Kurt a déjà parlé. Je dis en passant que le Zentralverein existait depuis 1893 et avait pour but essentiel, ce qui va le faire déclarer ennemi du Reich, comme objectif essentiel, la lutte contre l'antisémitisme. Vous pensez bien qu'un État antisémite ne peut pas tolérer ça. Donc ils ont été déclarés Staatsfeind, ennemi de l'État. Mais un de leurs présidents reste dans la fédération des Juifs du Reich. Il y avait le président de la communauté d'Essen, le docteur Hirschland, et le rabbin de cette même communauté, ainsi que comme conseiller technique, j'allais dire fiscal, Karl Melchior de la banque juive Warburg, dont les descendants sont aujourd'hui aux États-Unis. Vous aviez là une jolie pyramide du judaïsme allemand tel que Kurt l'a décrite tout à l'heure. En novembre 1933, ces représentants du judaïsme allemand approuvent la politique étrangère d'Hitler, c'est-à-dire non au diktat de Versailles, oui à la dignité du Grand Reich, etc. Les sionistes, qui constitue à l'époque une minorité dans le judaïsme allemand, ça va changer en cours de route. Nous allons y venir, parce que je vais surtout m'attacher au judaïsme allemand de 1933 à 1939, pour vous montrer son évolution. Les sionistes font dès cette époque, en s'inspirant d'ailleurs de Martin Buber, qui est le grand homme en Allemagne, une différence entre l'État et la nation. C'est d'ailleurs en m'inspirant de ces différences que j'ai écrit il y a quelques années pour une revue non-juive un article sous le titre « Identité nationale et spécificité culturelle ». On pouvait avoir les deux. Eh bien, les sionistes font la différence en disant « on peut être fidèle à l'État tout en ayant une nation spécifique ». Et cette idée va faire fortune, comme je vais vous le montrer, même dans les milieux qui n'étaient pas sionistes auparavant. Je ne reviens pas longuement aux juifs nationalistes, dont Kurt a un peu parlé, les National-Deutsche Juden, qui avaient fait toute une typologie du bon juif et du mauvais juif, le mauvais juif étant celui de l'Est, qui ne pouvait être qu'un repoussoir pour les Allemands, le bon juif étant celui que Kurt a décrit sous les traits de son père ou grand-père.
Grand-père.
Le docteur Max Naumann, qui dirigeait cette association, s'est retrouvé comme les autres dans les camps, et je sais par ma famille qui était à Gurs que lui et ses congénères ont été mis en quarantaine par les autres juifs. C'est un aspect peu plaisant de cette période, mais je crois qu'il faut dire toute la vérité quand on écrit l'histoire. En avril 1933, donc, tout commence par ce fameux boycott des magasins qui fait fuir 37 000 juifs. On pourrait s'attendre à ce que les plus fortunés s'enfuient tout de suite. On casse les magasins, symbole de la propriété. Eh bien non. Ceux qui s'enfuient, ce sont des juifs polonais, les plus politisés, dirais-je, parce que Kurt a parlé tout à l'heure des juifs révolutionnaires. Il faut bien dire que le ferment révolutionnaire était surtout chez les juifs d'origine polonaise. Les juifs allemands étaient des gens d'ordre pour la plupart, d'ordre, de propriété. Mon père faisait figure de rouge parce qu'il votait social-démocrate. C'était déjà beaucoup. Et on a parlé tout à l'heure du vote des juifs en 1933, des juifs allemands. Je vous signalerai qu'une bonne proportion a voté Zentrum, c'est-à-dire le centre catholique, estimant qu'un parti confessionnel était le meilleur rempart contre le nazisme. Alors que ce parti était déjà très nationaliste.
Il y a eu pire, il y en a qui ont voté national.
Oui, mais ça c'était une frange infime. Arnold Pauker, il y a un très bon livre là-dessus, qui est le directeur du Leo Beck Institute à Londres, a montré que les votes des juifs ont donné une très mince frange à l'extrême gauche, à peu près 8%, une mince frange à peu près de 5% au parti nationaliste, 5 à 8%, et le reste se partageant entre le Zentrum catholique et la SPD, avant aussi un parti qui est devenu tout petit, la Deutsche Staatspartei, qui serait à peu près servant Schreber en plus nationaliste, puisqu'aujourd'hui la mode est au fédéralisme européen. En tous les cas, c'est aussi en 1934 que sont votées les lois sur l'exclusion des juifs de la fonction publique et des professions libérales, mais j'insiste, ces lois ne s'étendent pas au secteur privé. Je vous demande tout de suite de faire dans votre esprit une coupure entre 1933-38 et la suite. Ce n'est pas avant 1938 que commence la véritable persécution. Bien entendu, il y a eu le boycott des magasins juifs en avril 1933, l'exclusion des professions libérales, mais le gros des juifs allemands, étant donné que je vous ai donné leur sociologie, ne se sent pas encore touché. Et comme l'a dit un jour Alfred Grosser, quand le voisin était touché, on disait « c'est pas moi ». Jusqu'à ce que ça arrive sur votre nez. Il y a même, en novembre 1934, une ordonnance du ministère...